Alors, je regarde si... Non, Frédéric n'est pas là. Je lui ai écrit un mail à 11h30 hier soir. Il est là ? Ah, il est là, Frédéric. Tu n'as pas lu le mail que j'ai écrit ? Je te demandais d'apporter un casque de protection pour... Mais c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout, parce que j'en aurais eu besoin, puisque vous avez lu le sujet de la prédication, port du casque obligatoire, parce qu'on va parler de soumission. Être ou ne pas être soumis, telle est la dangereuse question. Il aurait bien eu besoin d'un casque parce que je m'attends à des réactions fortes. Alors, j'ai pas choisi ce sujet. Nous allons en parler parce que nous faisons ensemble, enfin je fais avec vous, une série de prédications sur la première lettre de Pierre aux églises dans la dispersion, et nous sommes arrivés à la fin du chapitre 2, et là, après nous avoir parlé du sacerdoce universel, c'est-à-dire du service pour tous, il va nous parler, Pierre, de la soumission universelle, c'est-à-dire de la soumission pour tous, pour moi, comme pour vous. Soyez soumis à vos semblables, soumettez-vous à vos semblables. Oui, j'aurais bien pris un casque de protection parce que je pressens que le sujet ne va pas plaire à tout le monde, surtout en France, avec les Français qui, depuis l'époque bénie des irréductibles gaulois, jouent la carte de l'insoumission. Un parti politique actuel, dont je choisis de prendre l'adjectif insoumis au fond, hein, comme une manière pour la France. Il serait de bon ton en France d'être insoumis, rebelle, bagarreur, râleur, rouspéteur, et j'en passe, et des meilleurs. La soumission n'a pas bonne presse, que ce soit en France ou en Belgique ou n'importe où. Et pourtant, cependant, toutefois, il y a dans la Bible un appel à la soumission. Un appel donc qui vient un peu, beaucoup et parfois passionnément à l'encontre de notre culture, de ce qui nous est naturel. Mais avant de parler de cet appel à la soumission, il faut dire et souligner qu'il y a aussi dans la Bible un appel à la résistance. « Ne vous conformez pas au siècle présent », dit Paul aux Romains, dans Romains 12. Il nous appelle à une forme de résistance par rapport au modelage de notre temps. Résister. Et puis il y a Jésus qui dit, et dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, « Vous êtes dans le monde ?» Mais vous n'êtes pas du monde. Autrement dit, vous n'obéissez pas aux principes qui régissent le monde. Vous n'êtes pas subordonné au schéma de ce monde ou aux idoles de ce monde. Parce que vous êtes en Christ. Et à Christ, vos priorités et vos allégeances sont différentes. Et donc, il y a dans la Bible un appel à la résistance et même parfois à la désobéissance. Une résistance qui serait non violente, mais qui serait résistance quand même. Une désobéissance qui serait respectueuse, mais qui serait désobéissance quand même. Je relisais dans Ésaïe, dans le prophète Ésaïe, ce texte lapidaire qui nous dit « Malheur à celui qui émet des décrets injustes ». Quand une loi est mauvaise, quand un décret n'est pas juste, quand un projet de loi ne va pas dans le sens de la justice et le respect de l'humain, on est en droit, voire en devoir, de réagir par tous les moyens légaux. Et dans certains cas, quand la légalité elle-même est injuste, il faudra peut-être prendre le maquis et entrer en résistance active. Je me risque à donner un exemple d'actualité. Quand une loi interdit d'accueillir chez soi ou d'aider des réfugiés sans papier et qu'il faudrait les signaler à la police, il nous faut pacifiquement désobéir. Il nous faut respectueusement devenir un temps, le temps de l'amour du prochain, des hors-la-loi. Hors-la-loi injuste. Hors-la-loi, non pas comme les frères Dalton, mais comme le pasteur Trocmé, par exemple, et toute la population protestante du Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, tout près de la Costette, qui ont accueilli des milliers d'enfants juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, en toute illégalité sous le régime de Vichy. Cela, c'est de la désobéissance et de la résistance pour la justice. Et il y a de la place pour cela, et il fallait le rappeler. Mais à côté de cet appel à la résistance, il y a aussi un accent mis sur la soumission, et c'est un accent grave. Un accent ou un appel qui nous laisse, il faut bien le dire, un peu gênés aux entournures, et on va dire que cette gêne nous vient probablement de la définition que nous avons de la soumission. Quand on pense soumission, en effet, on pense d'emblée à cette soumission qui consiste à être complètement abaissé, considéré comme un paillasson pour que le puissant de passage, et il y en a toujours un dans les environs, puisse essuyer les pieds. Dans notre imagerie de la soumission, il y aurait le dominateur qui humilie l'autre et le soumis, humilié, qui par conformisme ou lâcheté ou tout simplement parce qu'il n'a pas d'autre choix, subit sans broncher l'humiliation. Ça, c'est l'image que nous avons de la soumission. Et il faut le dire, ce sont des situations qui existent. Et il n'est pas question de les nier, et on ne va pas les nier ce matin, mais on voudrait essayer de voir ensemble ce que Pierre, inspiré par l'Esprit, veut nous enseigner au sujet de cette soumission. Et peut-être aller ensemble vers une autre définition de la soumission, bibliquement définie. Et donc je vous demande de faire un effort pendant toute la prédication de ce matin, à chaque fois que je prononce le mot soumission, d'empêcher les vieilles images ou les images habituelles de soumission que vous avez sur l'écran, là, de venir dans votre tête et surtout de ne pas rester bloqué sur ces images et d'essayer d'avancer avec moi vers une définition biblique et applicable de la soumission. Alors revenons au verbe « se soumettre ». Pour traduire correctement le verbe grec, il faudrait peut-être utiliser le verbe français « subordonner ». Pour certains, ce ne sera pas beaucoup mieux que soumettre, mais quand même, il me semble que subordonner est un peu moins chargé sémantiquement, comme on dit, que soumettre. Il signifie se placer sous un ordre, on pourrait même dire, il signifie entrer dans un ensemble ordonné. Et cet ensemble ordonné serait cet ordre social et relationnel prévu par Dieu et qui permettrait justement de vivre ensemble dans une société faite de relations sociales. Et il me semble que c'est ce dont la Bible nous parle quand elle parle de soumission. C'est se soumettre, ce serait accepter cet ensemble ordonné. C'est consentir intérieurement à reconnaître l'autorité de personnes occupant des positions définies dans cet ensemble ordonné. C'est quelque part accepter l'autorité. Et le passage de la première lettre de Pierre nous donne des exemples de lieux de soumission où la soumission pourrait se vivre concrètement dans les relations avec les gouvernants, dans la relation maître-esclave, mais ce sont des cas particuliers liés aux structures sociales de l'époque. Mais il me semble, quand on lit la Bible, que nous avons un principe général qui s'applique à tous les hommes. Pour l'amour du Seigneur, 1 Pierre 2,13, soumettez-vous à vos semblables. Éphésiens 5, 20, soyez soumis les uns aux autres. On a donc là un principe de vie qui s'applique dans toutes nos relations sociales. Soyons prêts à nous soumettre les uns aux autres, dans le couple, dans la famille, sur le lieu de travail, dans nos relations amicales, dans l'Église. Et on pourrait tenter une définition peut-être un petit peu plus à notre portée, un petit peu moins intellectuelle, pour la soumission en disant la soumission, c'est avoir le courage d'admettre avec grâce qu'une chose puisse se faire, non pas comme je le veux, mais comme l'autre le veut. Ok. La soumission que Dieu veut pour nous, c'est de pouvoir dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors qu'on a envie de dire souvent, je fais ce que je veux, ou je fais comme je veux, ou, hé les gars, on va faire comme je veux. La soumission que Dieu veut pour nous, ce n'est pas abdiquer, ce n'est pas nier notre personnalité ou nier, comme le dit le psaume 139, que nous sommes une créature merveilleuse, comme vous l'avez vu dans les murmures de l'entrée de l'Église. Ce n'est pas nous mépriser nous-mêmes et les dons que Dieu nous a donnés, c'est apprendre à considérer la vie et parfois l'autorité de l'autre, et de volontairement céder ses droits, parfois même son agenda, et laisser son ego de temps en temps, en tout cas plus souvent qu'on ne le fait, de côté. Et cela pour le bien de l'autre, pour le bien des autres, pour le bien de l'ensemble. Mais revenons au passage que nous adresse Pierre, à l'appel que nous adresse Pierre ce matin. Et on va détailler quelques aspects de cette soumission. Et le premier point qui semble sortir du passage, c'est que cet appel à la soumission est lancé dans le cadre du témoignage. Soyez soumis parce qu'il en va du témoignage. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Les gens qui ne connaissent pas Dieu observent littéralement les chrétiens, parfois à la longue vue. Et s'ils voient quelque chose que ce dont ils ont l'habitude de voir, de différent que ce dont ils ont l'habitude de voir, ça va peut-être changer quelque chose le jour où Dieu les visitera. Et au verset 13, « Pour l'amour du Seigneur » doit se lire « Pour le témoignage à rendre au Seigneur ». Alors il nous faut replacer cela dans le contexte de l'époque. Pierre écrit à des chrétiens qui sont disséminés dans l'Empire romain. Ces chrétiens sont plus que minoritaires, ils sont considérés comme quantité négligeable. Et pire que cela, ils sont considérés comme suspects. Il y a de la suspicion à leur égard, tout simplement parce qu'ils refusent de vouer un culte à l'empereur romain. On est dans l'Empire romain. Et les chrétiens refusent de rendre ce culte à l'empereur. On les soupçonne de sédition. Et donc il y a pour ces chrétiens du 1er siècle comme un problème d'image. Ils n'ont pas une bonne image. Et Pierre, plutôt que de faire appel à un consultant en communication, va en appeler à un comportement renouvelé pour chaque chrétien. Et toute l'épître de Pierre, c'est cela. Et il va leur dire, soyez pleins d'espérance, au chapitre 1. Soyez pleins de joie dans l'épreuve. Ça, c'est du témoignage aussi. Soyez saints, ayez un comportement saint. Et puis, à la fin du chapitre 2, il va parler de cette soumission. Oui, avec la soumission, on est en plein dans la question du témoignage. Dit autrement, on est dans la question de l'impact qu'un disciple de Jésus peut avoir dans le monde dans lequel il vit. Alors, on est d'accord aujourd'hui, et je le répète, les circonstances ne sont pas les mêmes. Mais doit-on pour autant exclure la soumission de notre témoignage, de notre vie chrétienne? Je ne le pense pas. Je pense qu'elle peut et doit même garder une place dans notre présence au monde. Je vous demande pardon de faire une illustration sportive encore, mais je me souviens d'un joueur de foot professionnel qui a fait toute sa carrière en Bundesliga, c'est la première division allemande, et qui, pendant toute sa carrière, n'a eu aucun carton jaune. On ne parle pas des cartons rouges, on parle des cartons jaunes. 15 ans de carrière, aucun carton jaune. Et cet homme était sud-coréen. Il s'appelait, ça ne s'invente pas, Cha Boom. Et surtout, il était chrétien. Et je peux vous dire que son témoignage passait la barrière du stade. Un homme soumis aux règles en vigueur sur un terrain de foot, ça marque les esprits. Et je crois qu'à notre niveau aussi, notre témoignage peut prendre une autre dimension si on y inclut la soumission telle que la Bible nous enseigne, et non pas l'image que l'on en a. Quelqu'un de respectueux sans être obséquieux, de pacifique sans être mou, d'obéissant sans être servile, sortirait du lot, sort du lot. Parce que c'est être anticonformiste que d'être prêt à lâcher sa propre volonté au profit de celle des autres. Le conformisme serait de défendre son beefsteak coûte que coûte, de faire sa volonté d'abord, de défendre ses propres intérêts avant ceux des autres. Ça, c'est l'esprit du moment. Ça, c'est être conformiste. Mais la soumission à laquelle Dieu nous appelle dans sa parole est clairement anticonformiste et elle crée la surprise. Nous pourrions, vous pourriez peut-être poser, créer la surprise dans votre entourage par votre soumission, qui sait? Et on peut se poser comme ça la question de savoir ce qui pourrait se passer dans les différents domaines de notre vie si on prenait l'habitude de dire, cette fois-ci, on va le faire à ta manière. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Vous imaginez la surprise dans votre entourage? Surtout la surprise de vos proches? Il m'est avis que si nous commencions à l'appliquer dans notre vie, cette soumission, les lignes commenceraient à bouger. Dans les disputes de couple, d'amis, de voisins, de frères et sœurs, de familles pour des questions d'héritage. On imagine la surprise quand la phrase sort. Eh bien, on va faire comme tu veux. Une phrase qui apporte la paix, la guérison, la réconciliation. Mais on a peur, n'est-ce pas ? On a peur de donner le champ libre à tous ceux qui pourraient profiter de la situation. On a peur de perdre la main sur sa vie. On a peur d'être trompé. Et au final, on a peur de ne pouvoir jamais faire ce que l'on veut. Et je crois que Pierre répond à ces peurs légitimes quand il parle de la présence de Dieu dans cette soumission. Et il emploie plusieurs fois, plusieurs expressions pour parler de Dieu. Des expressions qui nous ramènent à Dieu. Par exemple, au verset 16, il nous dit « Soyez soumis comme des serviteurs ». Les serviteurs des autres ? Non, non, des serviteurs de Dieu. C'est le service de Dieu qui prime. Au verset 18, il y a comme une expression qui chapeaute l'ensemble, « craignez Dieu ». La crainte de Dieu, dit le livre des Proverbes, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse, non pas intellectuelle, mais la sagesse pour vivre. La crainte de Dieu, on pourrait dire la référence ultime à Dieu, c'est le commencement du savoir-vivre devant Dieu et dans le monde. Et il faut pouvoir vivre cette soumission dans la référence à Dieu. Verset 19, par motif de conscience envers Dieu. Soyez soumis par motif de conscience envers Dieu. La conscience éclairée par Dieu et sa parole. Et toutes ces expressions pour nous dire que cette soumission, elle se vit avec Dieu, par lui et pour lui. C'est lui et lui seul qui la fonde et qui nous permet de la vivre. Et c'est bien parce que nous sommes les serviteurs de Dieu d'abord, que nous avons choisi de le servir librement, selon la magnifique expression du verset 16, que je n'ai pas noté, mais vous vous en souvenez, il est question de liberté dans la soumission. Nous avons choisi de lui soumettre notre vie, en quelque sorte, que nous pouvons vivre la soumission. C'est bien parce que nous avons choisi de lui soumettre notre vie que nous pouvons vivre à notre tour la soumission à l'égard des autres, sans nous désintégrer complètement et sans perdre notre liberté. C'est notre soumission à Dieu, notre service de Dieu prioritaire qui nous permet de vivre cette soumission. Et donc, cette référence à Dieu fonde notre soumission dans nos relations, en même temps, elle la limite, elle en pose les bornes. C'est la crainte de Dieu d'abord. Et dans les situations où il faut choisir entre la fidélité à Dieu et l'obéissance à l'autorité humaine, le choix est, je ne vais pas dire simple à faire, parce que parfois les situations sont complexes, mais il faudra faire le choix de l'obéissance à Dieu. Et Pierre, le même Pierre qui a écrit « Soumettez-vous à vos semblables », dira devant le Sanhédrin, dans Acte 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc ce service de Dieu, le fait que nous soyons des serviteurs de Dieu en tant que chrétiens, met des limites aussi à notre soumission à l'égard des autres. Oui, nous le croyons, et je me répète, cette référence à Dieu, cette crainte de Dieu fonde et balise aussi notre soumission aux autres. Et puis dernier point, et pas des moindres, cet appel à une vie de soumission passe par le Christ. Parce que cet appel vient de Jésus, ou plutôt de la vie de Jésus. Avec, au verset 21, cette phrase magnifique, « C'est à cela que Dieu vous a appelé. Car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. » Et donc cet appel à la soumission de Pierre vient là aussi pour que nous puissions vivre à l'image de Christ. Ce qui reste quand même, et quoi qu'on en dise, l'objectif de celui qui se réclame de lui. Et quand on est chrétien, et il faut le répéter, on n'adhère pas à des valeurs chrétiennes. Ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est suivre Jésus-Christ. Être un disciple du Christ, de l'imiter et de mettre ses pieds dans les traces qu'il nous a laissées. Pour vivre à l'image de Christ. Et donc, pour vivre cette soumission selon Dieu, Pierre nous dit « Regarde à Jésus ». Et quand on regarde à Jésus, ou la vie de Jésus, on le voit un soir, dans un jardin, à Gethsémané, qui après avoir vécu, lutté contre l'angoisse de tout son corps, de toute son âme, de toute sa force, va dire à Dieu « Non pas ma volonté, mais la tienne. Et Jésus est à cet instant précis, mais pendant toute sa vie, en fait, un exemple de soumission à l'égard de son Père, un exemple que nous voulons suivre à la trace en mettant nos pas dans les siens, lui qui a vécu jusqu'au bout cette obéissance. Et c'est là, chers amis, que nous pouvons parler, comme pour Jésus, de ce qui pourrait paraître comme une contradiction dans les termes. C'est là que nous pouvons parler d'une soumission volontaire. Une soumission librement consentie dans la liberté de ceux qui ont choisi de le suivre. Et c'est là aussi qu'on s'éloigne définitivement de cette image d'une soumission faite de domination et de servilité que nous avons évoquée tout à l'heure, et que l'on rentre dans quelque chose d'un peu mystérieux, il faut le dire, mais qui relève de la vie à l'image de Christ, à la ressemblance de Christ. Et comme c'est quelque chose non seulement d'un peu mystérieux, mais aussi de très intime, ce sera à chacun de voir dans sa liberté comment il peut vivre cette imitation de Christ dans la soumission, dans son quotidien. Et le passage de Pierre termine par les versets 24 et 25, ça vous êtes heureux de l'apprendre, mais il nous parle, ces versets 24 et 25 nous parlent du salut accompli en Jésus-Christ, de ce sauvetage en pleine mer, d'une vie perdue, séparée du port d'attache de Dieu, de son amour et de sa vie. Un sauvetage que Jésus a tenté et a réussi de main, non pas de maître, mais de main de serviteur. Par la mort sur la croix, par sa résurrection d'entre les morts. Et il faut bien se souvenir de quelque chose, il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est que tout cela, ce salut, n'aurait pas été possible sans la soumission de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Nous sommes sauvés, nous sommes là ce matin, parce que Jésus a dit non pas ma volonté, mais la tienne. La soumission de Jésus nous amène le salut, la délivrance, la libération. Sans elle, sans cette obéissance à la volonté de l'autre, avec un grand A, rien n'aurait bougé. Mais Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et la destinée du monde, et la mienne, et la tienne, s'en sont trouvées transformées. La soumission du Christ a été la clé pour le salut de l'humanité. Ne pourrait-elle pas l'être pour nous, dans quelques situations ? Une clé. Et je ne sais pas si on peut pousser l'application trop loin, mais vous voyez peut-être ce qu'elle pourrait être pour vous. Combien, effectivement, de situations ne bougent pas dans notre vie parce que nous manquons de soumission, parce que nous voulons n'en faire qu'à notre tête. Combien de relations sont bloquées parce que personne ne dit, non pas ma volonté, mais la tienne. La soumission est une clé, mais personne ne veut l'utiliser, cette clé, et moi le premier. Et on voit tous les domaines où le blocage se vérifie dans les relations homme-femme, dans les relations au travail, dans les relations de voisinage, dans les relations entre amis qui deviennent ennemis, dans les relations dans la famille et les sombres histoires de famille, dans les relations parents-enfants, mais aussi et peut-être surtout dans notre relation avec Dieu. N'y a-t-il pas là aussi dans cette relation-là des situations bloquées parce que tout simplement nous tenons à notre volonté, nous ne voulons pas la soumettre à celle de notre Créateur et Sauveur qui sait pourtant mieux que nous ce qui est bon pour nous. Oui, il y a des moments où tout notre être résiste à la soumission. Et c'est dans ces moments-là qu'il nous faut regarder à la croix et demander à Dieu la grâce de nous permettre de vivre cette soumission libre et volontaire, comme lui, Jésus, l'a vécu. Ce n'est pas gagné hein, pour les Gaulois et pour les autres tribus barbares que nous représentons ici. Les Ostrogoths, les Visigoths, les Vandales. Mais par sa grâce et pour sa gloire, nous voulons décider de nous engager sur ce chemin-là. Mettre nos pas dans les traces laissées par Jésus. Nous voulons réclamer l'aide de son Saint-Esprit qui agit puissamment en ceux qui croient. Et nous le croyons, n'est-ce pas ? Amen.